VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est 11h à Nouakchott, midi à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Au Nigeria, nouvelle attaque de Boko Haram contre Maïdougouri dans le nord-est du pays, ville qui est censée devenir la base des opérations gouvernementales pour réprimer la rébellion du groupe islamiste. Selon les dépêches, des tirs nourris y sont signalés aujourd'hui et l'aviation gouvernementale est intervenue. C'est la seconde attaque de Boko Haram contre Maïdougouri depuis l'accession au pouvoir du nouveau président Muhammadu Buhari. La précédente samedi dernier avait fait au moins 26 morts. Le président Buhari se rend demain au Niger pour une visite d'État de 2 jours avant de continuer sur le Tchad. Des réactions à Niamey au micro de notre correspondant sur place, Abdul Razak Idrissa.
C'est en quelque sorte une reconnaissance de l'engagement du Niger dans la lutte contre la secte Boko Haram.
Il y a une sorte d'unanimité chez beaucoup de Nigériens sur le choix porté par le nouveau président nigérien Muhammadu Buhari d'effectuer au Niger sa première visite d'État à l'extérieur depuis son investiture.
Les relations entre le Niger et le Nigeria sont depuis la nuit des temps très avancées. Je dirais même que c'est des familles qui se retrouvent de part et d'autre des frontières.
Au-delà de tout, certains Nigériens voient aussi dans cette visite du général Buhari au Niger comme un choix qui s'impose à lui, question sécuritaire oblige.
C'est un choix obligé pour ce nouveau président, dans la mesure où c'est un connaisseur de la sécurité en tant qu'ex-général du Nigeria. Donc il sait bien pour que son engagement puisse être porteur et efficace. Il faut bien évidemment coordonner avec le pays voisin dont l'engagement a été quand même montré.
Je pense que le fait qu'il entame, avant même la formation de son gouvernement, une visite ici et au Tchad, c'est pour montrer en tout cas qu'il n'a pas été insensible aux efforts que notre peuple a fournis à travers notre intervention militaire, en tout cas au Nigeria. C'est pratiquement pour relancer le combat contre Boko Haram. Il veut rapidement finir avec Boko Haram. C'est d'abord une question sécuritaire, les trucs économiques et autres là vont venir par la suite. Mais dans l'immédiat, le problème qu'il cherche à résoudre, c'est le problème de Boko Haram. Et je pense que c'est pour cela qu'il revient chez lui.
Pour la majorité des Nigériens, il va certes être question sécurité dans les échanges entre Issoufou et Buhari. Il doit aussi être évoqué la question énergétique. Le Niger dépend en effet en grande partie du Nigeria sur ce plan. Les dernières perturbations dans le secteur au Nigeria ont été lourdement ressenties ici au Niger. Abdul Razak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, les opérations de révision des listes électorales sont en cours depuis lundi. Elles devraient concerner 3 millions de nouveaux électeurs. Félix Yepassi Zembrou.
Les opérations vont durer 30 jours sur toute l'étendue du territoire. 2000 centres fixes et 500 équipes mobiles sont prévus pour l'inscription de 3 millions de personnes. Hors de la Côte d'Ivoire, les inscriptions auront lieu dans 19 pays du 7 au 30 juin. Les élections de 2010 avaient plongé la Côte d'Ivoire dans le chaos. Plus de 3000 personnes ont péri en 5 mois de violence. Pour le scrutin d'octobre prochain, Alassane Ouattara, candidat à sa propre succession, est donné favori. Le Front populaire ivoirien, fondé par Laurent Gbagbo, traverse une crise interne. Le FPI a désigné Pascal Affi-Nguessan comme son candidat pour affronter le président sortant.
Au Mali, le gouvernement a ouvert une enquête après la découverte d'une grande quantité d'engrais importés de mauvaise qualité livrés aux paysans. Claire Morin-Gibourg.
L'affaire concerne environ 40 000 tonnes d'engrais. Les intrants étaient destinés au coton, une des principales cultures au Mali, et aux céréales. Ils ont été livrés par des fournisseurs de la compagnie malienne pour le développement des textiles, la CMDT, selon des sources proches de cette société majoritairement détenue par l'État malien. Le ministère du Développement rural a confirmé hier qu'une enquête avait été ouverte sur l'importation de 40 000 tonnes d'engrais frelaté et que toutes les personnes impliquées dans ce scandale répondront devant la justice. Lors d'une réunion au ministère de l'Agriculture où cette affaire a été mentionnée, le président Ibrahim Boubacar Keïta a affirmé la semaine dernière qu'il sera sans pitié et intraitable contre d'éventuels fautifs. C'est une question de santé publique, de morale et d'éthique, avait-il dit.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Crise au Burundi. Après un jour de trêve, les manifestations contre un troisième mandat pour le président Pierre Nkurunziza ont repris aujourd'hui à Bujumbura. L'ambassade des États-Unis au Burundi exhorte de nouveau le président Nkurunziza à renoncer à sa candidature à un troisième mandat. Dans un communiqué, la mission américaine souligne que cette initiative du chef de l'État burundais viole l'accord d'Arusha qui a mis fin à des années de violence dans le pays et risque de compromettre la stabilité chèrement acquise après une longue guerre civile. Par ailleurs, le parti d'opposition UPRONA dit non au report de 6 semaines des élections législatives et communales proposées par les pays d'Afrique de l'Est à leur sommet de Dar es Salaam en Tanzanie dimanche dernier. Les explications de Gaston Sindimro, secrétaire général du parti, au micro d'Idriss Fall.
Nous, au parti UPRONA, nous avons accepté le premier report des élections. Aujourd'hui, nous voyons que le problème, c'est le problème des élections présidentielles. C'est le problème du président de la République, Nkurunziza. Qu'est-ce que les élections présidentielles ont de semblable avec les élections législatives et communales? Nous avons dépensé de l'argent, nous avons dépensé de l'énergie. Donc, pour nous, les élections législatives, les élections communales devraient se dérouler au 5 juin de cette année.
Gaston Sindimo, secrétaire général du parti UPRONA. RDC, 5 ans jour pour jour après la mort du défenseur des droits humains Folibert Tshebeya et de son chauffeur Fidel Bazana, l'ONG La Voix des Sans-Voix, dont il fut le directeur exécutif, réclame toujours justice. Dolly Ibefou, l'actuel directeur de l'organisation, demande que la lumière soit faite sur cette tragédie. On l'écoute au micro de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Faire la lumière, c'est au niveau de la justice dire pourquoi l'État congolais a organisé, planifié cet assassinat. Pourquoi on devrait assassiner Floribert Tshebeya? Qui ont assassiné Floribert? Qu'il puisse préciser tout le monde qui a donné cet ordre-là. Nous savons ces personnes, nous les connaissons bien, mais il faut que la justice puisse le prouver. Il faut que la justice ou l'État congolais puisse dire que c'est X qui a ordonné, c'est Y qui a assassiné. Et l'État congolais nous dit non, le corps de Fidel, nous l'avons mis à tel endroit. C'est tout ce que nous cherchons jusque maintenant. Je crois que l'État congolais a l'obligation de faire la lumière sur cet assassinat. Parce que c'est son image qui a été ternie. C'est l'État congolais qui choisit ou qui nomme des personnes ou des autorités qui sont irresponsables. Il a vraiment le besoin de redorer son image qui a été ternie avec cet ignoble assassinat. Le procès se trouve à la haute cour militaire qui est en train d'instruire maintenant ce procès. La dernière audience a confronté les collaborateurs, M. Mouila, qui était venu avec une lettre, mais sa mission était d'identifier Floribert. Nous attendons que la haute cour militaire puisse se prononcer, puisse poursuivre tout le monde. Nous pensons en premier lieu le premier suspect qui est le général John Numbi. Parce que pour nous, c'était lui qui a organisé cela. La justice devrait l'inculper. S'il était quelqu'un d'autre, je crois qu'on ne pouvait pas le laisser comme ça. C'était la première personne qui devrait être arrêtée. Mais voilà, on les laisse libres. On laisse Kenga Kenga, qui a assassiné Floribert, Jacques Mugabo, s'est promené à Lubumbashi, mais on ne sait pas les arrêter.
Dolly Ibefou, directeur exécutif de La Voix des Sans-Voix à Kinshasa. Crise au Yémen, libération de l'Américain détenu dans ce pays en pleine guerre civile. L'intéressé est arrivé hier dans le sultanat voisin d'Oman, qui a facilité les tractations entre Washington et les rebelles yéménites. Jean-Roger Bion.
La libération de l'Américain identifié sous le nom de Cassie Coombs a été annoncée par le département d'État. Aucune information d'après l'AFP n'a été donnée sur la période de détention au Yémen de M. Coombs, ni sur le groupe qui le détenait. Washington a annoncé dimanche que plusieurs Américains étaient retenus au Yémen. Le Washington Post a parlé de 4 Américains prisonniers des rebelles Houthis. L'un d'eux avait été arrêté pour un visa périmé, puis accusé de voyager dans des zones sensibles du pays. Endossant le rôle de médiateur, Oman, la seule des 6 monarchies du Golfe à ne pas participer au raid de la coalition dirigée par Riyad, a accueilli lundi des discussions entre Américains et des rebelles chiites. Des sources diplomatiques ont confirmé la tenue de cette discussion informelle et discrète, des tractations que le gouvernement yéménite en exil avait évoquées déjà dimanche à Riyad.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com, mais également sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.